Matthieu, lisons le chapitre 2, les versets 1 à 12. Lui donc, Jésus, engendré à Bethléem de Judée, au jour d'Hérode le roi, voyez, les magiciens venus d'Orient atteignent Jérusalem.
Et nous devrions aujourd'hui fêter ces chercheurs. Ils se sont
Mais Joseph n'eut pas de relation avec elle, Marie, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela Jésus. Ce que Matthieu raconte spécifiquement ensuite, et plus en détail, c'est cette marche des mages ou magiciens. Il est le seul à faire place à cet épisode. Un récit qui, en peu de mots, dit beaucoup de choses. Et d'abord, la dimension universelle de cette reconnaissance de ce que Jésus va apporter au monde. C'est la première idée qui apparaît avec ce long voyage des mages venus d'Orient. Cet événement de la naissance de Jésus a été annoncé par le prophète Michée dans l'Ancien Testament, un des 12 petits prophètes contemporains d'Isaïe, et qui est cité ici par l'évangéliste. Cet événement suscite la venue des mages d'Orient et ce grand trouble qui parcourt tout Jérusalem en même temps que le roi Hérode. Ces notations soulignent la dimension universelle de l'histoire de Jésus. À la fin de son évangile, Matthieu insistera à nouveau sur cette dimension. En écho aux mages, le centurion et les soldats romains chargés de garder Jésus sur la croix s'écrieront « Celui-ci était vraiment fils de Dieu ». Mais ce chapitre 2, c'est aussi le récit d'un rapport de force qui est ici mis en scène. Un rapport de force, hélas, très familier de notre monde contemporain. D'un côté, Hérode, qui lui est bien un roi, puissant, qui incarne la force. Il a à proximité l'ensemble des grands sacrificateurs et des lettrés du peuple. Et tout Jérusalem. Il appelle les mages en secret pour obtenir de la révélation du lieu où se trouve l'enfant. Puis il leur ment en justifiant sa demande par le prétexte d'aller se prosterner devant Jésus. Hérode, c'est un tyran clairvoyant. C'est l'orgueil qui a peur. Il incarne face aux mages en mouvement l'immobilité ébranlée, mais aussi la logique de la force s'appuyant sur le mensonge et le secret. Le petit enfant avec Marie, sa mère, sont l'image non de la faiblesse, mais d'une extrême fragilité, susceptible d'être broyée par la toute-puissance dominatrice. Pourtant, cette lutte n'est pas perdue d'avance. Et c'est la deuxième idée qui me frappe distinctement dans ce texte. Il est concevable d'opposer à la logique de la force la solidarité avec et des plus fragiles. Ce qui déjoue le piège tendu par Hérode, c'est le comportement des mages dans leur cheminement vers l'étoile. Doublement audacieux. Eux qui se sont mis en route vers l'incertain, ils ne se laisseront pas impressionner par le pouvoir. Tout simplement, ils n'obéiront pas à Hérode. Ils ne reviendront pas vers lui. Ils prendront un autre chemin. En somme, ils abandonnent le chemin qui conduirait Jésus, enfant, à la mort. Cet échappement dit déjà la résurrection de Jésus à la fin de l'Évangile. En effet, lorsqu'au chapitre 28 de Matthieu, les femmes viennent au tombeau, elles rencontrent un ange qui leur dit « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il s'est réveillé comme il l'avait dit. » Jésus ne se trouve pas là où on s'attendait à le trouver. Il est possible et troublant de dire promesse du matin de Pâques. Certes, ainsi, seul l'enfant Jésus nouveau-né échappe à la mort. Vous vous souvenez de la suite de ce texte. Hérode, furieux d'avoir été joué par les mages, ordonne des représailles. Le massacre de tous les petits-enfants de Bethléem de 2 ans et en dessous. Et on voit Rachel qui pleure ses enfants morts et ne veut pas être consolée. Cette page d'une horreur atroce fait aussi partie du récit de Noël et nous interdit de nous enfermer confortablement dans une image illusoire. Dans ce même lieu de Bethléem, il y a la crèche et cette horrible tuerie. C'est dire que Hérode n'est pas empêché par l'événement de Noël d'être un tyran sanguinaire. Mais il y a cette histoire des mages. Elle invite non pas à s'en remettre à une intervention magique qui résoudrait tout instantanément, à se mettre en chemin et à échapper à la soumission à l'idée de destin. Tout simplement, les mages prennent un autre chemin. Ils abandonnent le chemin qui conduit à la mort. Oh, voyez, l'étoile qu'ils avaient aperçue à l'Orient les précède dans sa course jusqu'à s'immobiliser au-dessus du lieu où était le petit enfant. À la vue de l'étoile, leur joie est alors une très très grande joie. C'est le verset 9 de notre texte du jour. Voyez, cet impératif est à recevoir pleinement dans son interpellation vigoureuse. Je le relis parce qu'il permet de déployer l'image de cet autre chemin dont nous parle l'Évangile. Ces mots « autre chemin » peuvent être perçus avec toute leur charge symbolique. Ils évoquent tous les créateurs de nouveaux sentiers, de chemins très concrets, de routes, de ponts, mais aussi des cheminements de l'esprit et de la recherche. Et un autre chemin, ce peut être aussi aujourd'hui celui qu'a entrepris l'écrivain Frédéric Boyer en travaillant à une nouvelle traduction des Évangiles. Elle vient de paraître et c'est dans cette traduction que le récit de l'Épiphanie a été lu tout à l'heure. Dans sa préface à cette nouvelle traduction, Frédéric Boyer explique son projet de restituer de l'annonce, où l'oralité et la performance de la parole sont mises en scène. Citation. C'est une question vitale de rencontre, écrit-il, et il s'adresse au texte biblique comme à l'étoile. Je te veux à moi dans cet effort désespérant où plus je te parle dans ma langue, plus tu vacilles et semble t'éloigner, quand soudain c'est toi qui me reprends, avec mes mots et ma syntaxe en souffrance. Quand soudain tu apparais sur le seuil contemporain, comme venu d'ailleurs. Tu as alors quelque chose à renoncer. Cheminons, nous aussi, dans l'Évangile. sorte de destin, la possibilité de prendre un autre chemin, de choisir.